Bonjour. Quand parole et esprit en parfaite harmonie, j'envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Que tout ce qui m'entende sorte de l'oubli et transcende toute anxiété et douleur. J'écoute ce son merveilleux de la cloche me ramène à ma vraie demeure. C'est une pratique d'arrêt, une pratique d'amour, une pratique de don, une pratique d'ouverture, une pratique de communion. Et c'est une pratique très importante dans notre retraite et dans notre vie. J'ai rencontré plusieurs personnes en entrevue durant la retraite et le thème, le fil commun qui revient, c'est toujours comment est-ce qu'on pratique? C'est quoi la pratique et comment pouvons-nous la rapporter dans notre vie de tous les jours? Comment ne pas perdre l'énergie de la retraite? Comment faire en sorte que l'état dans lequel on se trouve à la fin d'une retraite puisse durer plus longtemps que 30 minutes. Alors, la pratique de la cloche est une pratique très importante que nous pouvons amener avec nous et que nous pouvons revenir ou nous rappeler à chaque instant de notre vie quotidienne. Quand j'ai commencé cette pratique, un des exercices que notre maître nous a donné, c'est d'identifier les cloches dans notre journée. Alors, c'est un exercice que je vous propose de faire, si vous le souhaitez. Parce que lorsqu'on sortira d'ici, Diane ne sera pas là pour inviter la cloche, pour nous rappeler la pratique. Mais si nous l'avons déjà pratiqué ici et que nous sommes développés ou que nous savons ou nous avons reconnu cette capacité que nous avons de nous arrêter au son de la cloche et de revenir à l'intérieur de nous et d'y trouver le calme, la paix et la joie qui sont en nous, nous pouvons utiliser cette insight, cette réalisation et y revenir n'importe où, n'importe quand, avec ou sans Diane, avec ou sans cette grosse cloche. Alors lorsque je pratique à écouter le son de la cloche, parce que j'ai déjà appris à comment inviter la cloche, je sais que la personne qui a la cloche et la personne qui a la cloche pratique cette pratique aussi très assidûment, parce qu'elle sait que toute la retraite peut en bénéficier ou non en fonction de la qualité qu'elle met dans sa présence. Et c'est pour ça que le maître de la cloche commence par revenir à elle, s'établir corps et esprit ensemble et être à son meilleur état. Et c'est pour le meilleur état dans lequel nous sommes, c'est lorsque nous sommes corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Lorsque nous ne sommes pas dans cette pratique, notre corps peut être présent, mais notre esprit peut être ailleurs. Et en fait, très souvent, il est ailleurs. Et c'est pour ça que nous l'appelons, en anglais, il y a le mot « disembodied ». Alors, ce sont des personnes, des âmes sans corps ou des corps sans âme. Et que nous sommes des personnes, c'est-à-dire des corps bien habités, bien ancrés, pleinement consciente, corps et esprit ensemble. Et lorsque le corps et l'esprit sont ensemble, la parole ou les actions, la parole c'est une des trois actions, sont ensemble aussi en harmonie. Et c'est dans cet état-là que nous invitons la cloche à sonner. Et dans cet état-là, on est ce qu'on veut devenir, un être éveillé. Alors un être éveillé n'est nul autre être qu'un être qui est complet, parce que nous sommes déjà tout ce que nous voulons être, nous sommes déjà éveillés. Nous oublions des fois ou nous nous endormons des fois. Mais lorsque nous revenons ensemble, corps, parole et esprit, en harmonie, nous sommes cet être éveillé. Et lorsque nous sommes cet être éveillé, tout ce que nous faisons déteint cet éveil, déteint cette qualité que nous avons et que nous pouvons générer et que nous pouvons être. Et c'est pour ça que le son de la cloche, qu'un être éveillé aimé, n'est pas juste un simple son, mais c'est la voix du Bouddha qui nous rappelle à notre vraie demeure. Et c'est pour ça que lorsque nous invitons un son de cloche et que nous sommes éveillés, nous sommes en train de transmettre ce message d'éveil à tous ceux qui nous entendent. Et ceux qui nous entendent, lorsqu'ils sont touchés par cet appel du Bouddha, vont aussi s'éveiller. J'écoute, j'écoute ce son merveilleux de la cloche. Ce son merveilleux de la cloche qui est la voix du Bouddha et qui nous rappelle à notre vraie nature. Et c'est quoi notre vraie nature? C'est la nature de l'éveil aussi. Et nous nous éveillons aussi. Alors donc, la même pratique de la cloche, une fois qu'on l'a faite, une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on l'a réalisée, une fois qu'on s'est assuré qu'on a cette capacité, une fois qu'on nous a rappelé que oui, nous aussi nous sommes capables et que oui, le Bouddha avait raison lorsqu'il dit que nous avons tous cette nature d'éveil et que cette nature d'éveil est en nous et que nous l'avons touchée. Cette nature-là, elle est toujours là, elle sera toujours là. Et ça nous prend une fois l'avoir reconnue et l'avoir touchée pour pouvoir y revenir. Hier, je vous avais parlé de croyance et de dévotion. Alors, la croyance que j'ai, la dévotion que j'ai, n'est pas une croyance aveugle, mais c'est une croyance fabriquée, éprouvée. C'est que j'y crois parce que j'y ai goûté. J'y crois parce que je l'ai expérimenté. Cette croyance, cette foi que j'ai, s'alimente par les résultats que je peux obtenir à partir de mon expérience, à partir de mon expérimentation. Alors lorsque je vous dis la respiration consciente nous procure paix et calme, vous pouvez me croire aveuglément. Mais je sais que je n'ai pas la capacité de vous hypnotiser ou bien de vous l'imposer. Mais si vous vous mettez à respirer et tout d'un coup vous vous sentez calme et paisible, vous allez le croire. Et parce que vous y croyez, vous allez le refaire. Et en le refaisant, vous verrez que votre calme et votre paix, votre joie seront encore plus grandes que la première fois. Et c'est comme ça que j'alimente ma foi et ma croyance dans cette pratique. Chaque fois que je la fais, chaque fois que je reviens à la pratique, j'y retrouve les bénéfices que j'ai déjà connus et que j'ai déjà expérimentés. Et chaque fois que j'y retourne, je les alimente, elles grandissent. Lors des retraites précédentes, je vous avais parlé de ma propre expérience de pratique et comment c'était difficile pour moi. J'ai commencé cette pratique comme un jeune ingénieur de 30 ans, dans une grande crise de dépression. Et grâce à cette pratique, à ma première retraite, j'ai pu, pour la première fois de ma vie, voir la couleur d'un pain, que les pains étaient verts et que le ciel était bleu. J'ai dû m'y accrocher et je me suis entraîné à regarder le soleil levant à chaque matin. Et à chaque fois que je me suis assis devant le soleil levant, cette grâce et cet état de bénédiction dans lequel je me trouvais se renforçait de jour en jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette pratique, à regarder le soleil se lever. C'est la première fois de ma vie à 30 ans, j'ai pu découvrir que les nuages pouvaient être roses, mais que les nuages n'étaient pas seulement blancs et gris, mais roses aussi. Et lorsque j'ai vu qu'ils étaient roses, j'ai aussi vu qu'ils pouvaient être rouges et oranges et de toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel. C'était une introduction pour vous parler des ingrédients qui sont essentiels à notre pratique. Et dans notre cursus, dans notre curriculum de cours sur les nombres du Dharma, je vais vous parler du nombre 5, les 5 énergies ou les 5 pouvoirs de la pleine conscience, ou les 5 énergies que ça prend pour pouvoir pratiquer la pleine conscience. La première énergie que ça prend, c'est la foi, c'est la croyance. La croyance que nous sommes tous des Bouddhas. Et c'est la première réalité, vérité, ou le premier enseignement du Sutra du Lotus. Nous sommes tous des Bouddhas. Et il faut y croire. Il faut croire que nous aussi, nous avons la capacité de pouvoir nous éveiller. Il faut croire que nous pouvons nous éveiller et que nous sommes des êtres éveillés. Il faut croire que nous avons cette nature du Bouddha à l'intérieur de nous, qui est peut-être un peu oubliée, un peu poussiéreuse, un peu enfouie, mais qu'elle est là, en nous. Afin de renforcer cette pratique, nous nous saluons. Et à chaque fois que nous nous saluons et que nous nous offrons une fleur de lotus, nous disons, je vous salue, un Bouddha en devenir. Je vous salue, Bouddha à être. A lotus for you, cette fleur de lotus pour vous, un Bouddha en devenir. Et c'est ça que je fais lorsque je m'incline devant vous. Je m'incline devant vous pour vous rappeler que vous avez cette nature. Et lorsque je vous le rappelle, je me reflète en vous. Et je sais que si vous, vous pouvez l'avoir, moi aussi je l'ai. Et lorsque je vous salue, je vous salue d'égal à égal, je vous salue de Bouddha à Bouddha, et ensemble, on se comprend, ensemble on se connecte, et ensemble on est là, présent. Cette croyance que nous sommes des Bouddhas, on peut aimer l'idée, on peut la pratiquer, mais lorsqu'on pratique à écouter le son de la cloche, et lorsqu'on revient en soi et qu'on touche cette graine de bouddhéité en nous, c'est-à-dire cette graine de paix et de joie en nous, ce calme qu'on peut toucher à chaque fois que nous revenons à notre respiration consciente et que nous nous arrêtons, nous renforçons notre croyance. Et ça devient une réalité, ce n'est même plus une croyance, mais ça devient une réalité et une foi profonde. Une foi profonde en notre propre capacité de pouvoir être ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire être heureux. Lorsque nous pratiquons, ou lorsque nous sommes dans la pratique, nous savons aussi qu'aussitôt que nous pratiquons, aussitôt que nous faisons la pratique, nous pouvons en goûter les fruits et les bénéfices tout de suite. Nous savons aussi que la pratique est une chose qui est impermanente. Et lorsque nous sommes pris dans nos environnements, il nous arrive trop souvent d'oublier et de lâcher la pratique. Et c'est pour ça qu'après une retraite, 2 heures après, 3 jours après, 1 semaine après, 2 semaines après, nous retombons dans le même état où nous sommes avant la retraite. Et la raison, c'est parce que nous avons délaissé ou nous avons lâché la pratique. Et c'est pour ça que c'est important. Et ce matin, dans la cérémonie de transmission, nous vous l'avons rappelé. C'est très important d'avoir une sangha. Sans une sangha, la pratique est très difficile. Et c'est quelque chose qui a été reconnu depuis le temps du Bouddha. Dans le temps du Bouddha, en Inde, le monde était beaucoup moins occupé que nous, je pense. Il n'avait pas grand-chose à faire. Il n'avait pas d'iPad, il n'avait pas de téléphone cellulaire, il n'avait pas de télévision, il n'avait rien de ça, donc pas grand-chose à faire. Mais il y a beaucoup d'images dans les enseignements du Bouddha, dans les sutras, sur ce qu'est, que peut être un pratiquant sans sa sangha et un moine qui quitte sa communauté est un pratiquant et un pratiquant mort. C'est sa mort de perdre sa sangha. Dans notre tradition, selon notre, dans notre école, le joyau le plus important des trois, c'est la sangha. Ce n'est pas le Bouddha, ce n'est pas le Dharma, mais c'est la Sangha. Parce que le Dharma sans la Sangha, ce ne sont que des mots, et ce ne sont que des livres, et ce ne sont que des textes. Un Bouddha sans Sangha n'a aucune chance de se manifester, ce n'est qu'une statue de bois inerte. Non, c'est la Sangha qui a la capacité de pouvoir rendre réel l'enseignement. Et c'est aussi dans la Sangha que le Bouddha peut se manifester. Et le Bouddha se manifeste dans la Sangha. Alors c'est la Sangha, c'est l'élément et c'est le joyau le plus important. Parce qu'il contient et il peut rendre réel et vivant les deux autres. Sinon les deux autres ne peuvent pas être. Et lorsque je dis que c'est le plus important, c'est parce que j'en parle et que je le prends pour le relier aux autres. Mais une sangha ne peut pas être une sangha s'il n'y a pas de pratique et d'enseignement. Alors ce n'est pas un club social, ce n'est pas une association de personnes, mais c'est une association, c'est un rassemblement, c'est une communauté de pratique. Et lorsqu'on parle de communauté de pratique, qu'est-ce que nous pratiquons? Nous pratiquons les enseignements du Bouddha. Nous pratiquons le Dharma. Et lorsque nous pratiquons le Dharma, nous manifestons et nous rendons le Bouddha réel. Et le Bouddha se manifeste en chacun de nous. Et nous devenons chacun le Bouddha que nous sommes et que nous contenons et que nous représentons, que nous avons à l'intérieur de nous. Donc la pratique dont je parle, faire partie d'une sangha, contribuer, participer à la sangha, fait partie de notre pratique que nous appelons la pratique du bouddhisme engagé. Nous ne pratiquons pas dans la forêt, nous ne pratiquons pas dans la montagne, nous pratiquons là où nous sommes avec des amis de pratique. Et c'est cela que nous appelons le bouddhisme engagé. Nous pratiquons dans notre vie de tous les jours, nous pratiquons dans notre milieu de travail, nous pratiquons quand nous nous levons, nous pratiquons quand nous marchons, nous pratiquons quand nous conduisons dans notre voiture dans la rue. Et tout ce que nous faisons pendant notre vie normale de tous les jours devient notre pratique de bouddhisme engagé, de bouddhisme engagé dans la vie. Le bouddhisme engagé là où nous sommes. Si je reviens à la définition des cinq énergies, ce dont je viens de vous parler, c'est la deuxième énergie. La deuxième énergie qui nourrit notre pratique et qui s'appelle la diligence. Alors, la diligence, c'est cette énergie qui consiste à, qui nous fait pratiquer de façon continue, constante, légèrement, joyeusement. Et je vais citer un ami des États-Unis qui m'a donné une définition de la diligence que j'aime beaucoup. C'est un effort continu, modéré, Je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais il ne faut pas trop se forcer. Et je pense que si j'ai un commentaire, si j'ai un conseil à vous faire, et c'est le commentaire que j'ai aussi donné à quelques personnes que j'ai vues en entrevue, n'essayez pas trop fort. Hier, notre ami m'a demandé c'est quoi la différence entre la pratique en Asie et la pratique en Amérique. Et en Amérique, nous avons cette qualité, c'est que nous sommes très compétents, actifs et très confiants dans nos moyens d'agir. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on agit, on fait. Et en faisant, on s'attend à des résultats et on croit toujours que plus on en fait, plus grands les résultats vont être et plus fort on fait et mieux vont être les résultats. Et c'est une approche qui n'est pas conseillée dans la pratique que nous faisons. Le bouddhisme est une approche non violente. Alors oui, d'un côté il faut pratiquer. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas trop faire, trop en faire, trop s'en faire, trop en vouloir. Parce que ça fera exactement l'effet contraire. Et nous parlons du juste, de la voie du milieu, nous parlons de l'effort juste, nous parlons de la noble diligence. Et c'est pour ça que l'effort que nous y mettons doit être un effort modéré, mais constant et continu. Essayez de remplir un verre d'eau avec un boyau de pompier. No way. Et goutte à goutte, vous y parviendrez. Mais avec un boyau de pompier, jamais. Alors soyez aimant, soyez tolérant, soyez généreux envers vous-même. Et engagez-vous dans une sangha. Dans une sangha, on n'a pas besoin de pratiquer. On fait juste rentrer dans une sangha et la pratique devient automatique et normale. C'est une question d'environnement. Et là, je parle de biologie. Lorsque nous nous mettons dans le bon environnement, ça va se passer naturellement. Si nous ne sommes pas dans le bon environnement, on peut essayer de faire quoi qu'on veut. On n'y parviendra jamais. C'est la même chose pour l'éducation de nos enfants. Et c'est la même chose pour notre pratique. Et c'est la même chose pour tout ce qui est vivant. Tout organisme vivant dépend de l'environnement dans lequel ils sont. Et si nous voulons avoir un effet sur le sujet, agissant sur l'environnement, et ça va se passer. Alors, nous nous mettons dans un environnement qui est propice à l'éclosion de la bouddhéité, puis ça va se passer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque vous rentrez dans différents milieux, et si vous pratiquez la pleine conscience, comment ça va? Vous pourrez tout de suite le ressentir au niveau de votre corps, au niveau de vos sensations, au niveau de vos impressions sensorielles, tout de suite ce qui est en train de se passer. Juste en rentrant dans une pièce, juste en rentrant dans un environnement, vous allez vous apercevoir quelles graines en vous sont touchées et qu'est-ce qui est en train de se développer ou d'affecter. Donc l'environnement dans lequel nous sommes. Et si nous savons ce dont nous avons besoin, nous pouvons travailler à aider, à créer ce genre d'environnement pour nous y mettre et pour nous y réfugier. Et c'est pour ça que nous pratiquons ce que nous appelons la prise de refuge. Je prends refuge dans la sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. Au début de la retraite, je vous ai invité à vous déposer pour pouvoir vous reposer. Et il continue de vous faire la même invitation. Vous déposez dans cette sangha, vous laissez envelopper dans cette sangha pour pouvoir vous reposer. Le même message. Alors, hier, nous avons parlé des cinq skandhas, et lorsque nous répondons à la question « comment ça va ?», on le répond en fonction des cinq skandhas. Ça fait partie de la famille des pandas. Non. Aujourd'hui, on vient de parler des cinq énergies. Et la première, c'est la foi. La deuxième, c'est la diligence. La pleine conscience. Nous avons parlé des trois joyaux. Ils sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et lorsque nous parlons du Dharma, nous parlons des les cinq entraînements à la pleine conscience. Et la pleine conscience, nous avons parlé de la pratique de la cloche et la pratique de l'arrêt, du retour. Je pense que la chose la plus importante à se souvenir de cette retraite, peut-être je vais revenir un peu en arrière. Hier, on avait parlé d'une chose très importante. Avec le comment ça va, nous avons parlé des cinq skandhas, nous avons parlé de la bonne nouvelle. Vous souvenez-vous de la bonne nouvelle? Non, je pense que c'est vraiment la seule chose à se souvenir. Là, je ne sais pas si je peux m'arrêter ici. Je pense que ça suffit comme contenu. Et on va terminer encore avec des chants ou bien très facile. C'est la concentration qui découle directement de la pleine conscience. Et ce qui suit la concentration, c'est l'éveil. C'est l'équanimité. C'est la vision profonde. J'ai arrêté là parce que ça se suit automatiquement. Alors je peux vous en parler, mais si vous pratiquez ça, vous allez arriver directement là. Okay. L'intelligence, la compréhension, l'éveil, l'équanimité, l'amour inconditionnel, tout ça. Donc les cinq énergies sont aussi les cinq pouvoirs. Et ce qui est remarquable, c'est que ces trois-là font partie de notre motto de pratique. Alors, si vous voyez le village des pruniers avec leur logo, c'est Smriti, Samadhi, Prajna. Alors, ce sont ces trois-là. Puis pour que ces trois-là se manifestent, il faut que cette pratique soit là. Pour que cette pratique soit là, constante, joyeuse et efficace, ça prend une diligence. La diligence qui commence avec la foi qui nourrit la diligence et qui rend la pratique de la pleine conscience réelle, concrète et efficiente, efficace. Je ne sais pas n'importe quel mot, mais c'est pour ça que des fois je me retransmets et je préfère les termes vietnamiens, chinois ou sanskrit. Parce que ça explique, ça dit mieux ce que c'est. Pleine conscience, okay, c'est une traduction à laquelle on s'habitue. Concentration, ce n'est pas vraiment ça non plus. C'est un état de samadhi. Alors samadhi, ça me dit plus que ce que c'est. Je sais ce que ça veut dire, mais concentration, ce n'est pas ça. En tout cas, essayez la pleine conscience, vous découvrirez la concentration, puis peut-être que vous trouverez un autre mot qui décrira mieux cela. Et Tuai, c'est la définition de Prajna. Prajna est le résultat et les moyens qui se mélangent. Donc Prajna, c'est cette intelligence, cette compréhension. Et avec la compréhension, l'amour qui suit et l'éveil et la vision profonde, etc. Et ces trois-là, qui font partie de notre motto, font aussi partie des sept facteurs d'éveil. Alors, on ne les a pas nommés, mais on les a toutes faites aussi. Comment devenir un être éveillé en suivant les sept facteurs d'éveil. Le premier facteur d'éveil, la pleine conscience. Le deuxième, investigation discriminante des dharmas. Comment ça va? C'est ça l'investigation? Ease. C'est ça? Je ne sais pas si Bouddha connaissait la théorie. Non, je pense que très souvent dans cette pratique et dans mon enseignement ou dans ma pratique, j'essaie de revenir à ce que je suis. Vous, peut-être que vous étiez comme ça aussi quand vous aviez 2 ans, mais vous l'aviez perdu. Non, vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez oublié. Et dans notre pratique, il y a une belle image aussi, c'est l'image du joyau. Il y a beaucoup d'images comme cela. Mais nous sommes des enfants riches et nous avons un grand héritage que nous portons en nous. Mais nous agissons comme si nous étions les mendiants les plus pauvres. Et nous sommes constamment à la recherche de quelque chose que nous avons déjà en nous. Alors c'est une façon de le dire. Ou bien c'est nous sommes un diamant qui demande juste à être nettoyé, ou nous sommes un miroir qui peut refléter tout, mais au cours des années, il y a eu trop de poussière qui s'est déposée, et le travail c'est de dépoussiérer ce miroir pour pouvoir refléter tout ce qui est. Nous avons très peu de temps ensemble, alors ne perdez pas le temps. Ne soyez pas gênés, nous sommes entre sangha. Alors, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Je ne sais pas, quelqu'un a dit que nous sommes les architectes de nos propres malheurs. Nous les avons construits, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus par la façon dont nous avons mené notre vie. Et lorsque je dis la façon dont nous avons mené notre vie, c'est la façon dont nos parents nous ont élevés, nous ont enseignés, la façon dont l'école nous a formés, la façon dont la société nous a mis. Je regarde mes enfants grandir. Et je vois exactement le genre de prison dans lequel ils sont en train de se mettre. Et c'est la prison dans laquelle je suis, et dans la même prison dans laquelle nous sommes tous. On parle de... Je suis revenu dans une période un peu active au Québec avec les messages publicitaires de... Et puis j'aime surtout... Ceci n'est pas un vote pour la souveraineté. Alors lorsque je parle de souveraineté, je me demande, ok, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi souveraineté? De quoi? Et ce n'est pas pour m'engager dans un débat. Mais cette pratique, la pratique que nous faisons, c'est exactement une question de souveraineté. Et je veux réclamer la souveraineté de moi, sur ma vie et sur mon domaine. C'est de réclamer ma liberté parce que j'ai complètement perdu ma liberté. Et cette pratique de pleine conscience, c'est une pratique où j'essaie de pouvoir avoir une liberté que je peux avoir par la souveraineté sur mes actions, sur mes pensées, sur réclamer ma liberté. Est-ce que j'ai le temps d'en parler? La première chose que nous pratiquons ici, je reviens à l'instant. Je me libère des regrets et des remords ou des peurs. Et c'est la première liberté à laquelle j'aspire et pour laquelle je pratique. Je ne veux pas être esclave de mes désirs. Je ne veux pas être conditionné par mes regrets. Je ne veux pas agir en fonction de, etc. Et c'est cela, la pratique que nous faisons, c'est de revenir à l'instant pour nous libérer de toutes ces contraintes et de tous ces liens. Alors c'est cela pour moi, la souveraineté et la liberté. Maintenant, pour en revenir un peu plus les pieds sur terre et puis un peu plus dans quelque chose de plus concret. Mes enfants vont graduer avec, je ne sais pas, 50 000, 100 000 dollars de dette. Avec un peu de chance, ils vont se trouver un emploi. Et une banque qui va accepter de les financer. Bien sûr, il y aura toutes les invitations de BMW et de pour acheter une voiture. Donc, c'est des dettes en plus. Ils vont vouloir se marier, avoir des enfants, avoir une maison, d'une autre dette. Et ils seront pris au cou. Et ils vont devoir aller dans des retraites de pleine conscience parce qu'ils seront trop stressés. Et n'oseront pas quitter leur job parce qu'ils ont une hypothèque à payer. Et c'est cela le monde dans lequel nous sommes. Et combien d'entre nous voudraient pouvoir lâcher leur job, mais ne peuvent pas parce qu'ils ont des dettes. Alors, quelle souveraineté et quelle liberté? C'est un système que nous avons bâti, et c'est un système qui nous emprisonne aussi dès notre naissance. On est conditionné. Et c'est cela la vision que j'ai eue pendant mon voyage au Vietnam. Ils n'ont pas d'assurance vie, ils n'ont pas d'assurance santé. Ils s'en font pas. Parce que la mort et la maladie font partie de nous. Combien vous payez pour l'assurance? Puis, à cause des assurances, vous vous empêchez de quitter votre job parce que vous avez besoin de cette assurance de votre employeur. Ça peut peut-être vous sauver de votre mort et vous donner 5 ans de plus de vie. Mais vous gâchez 40 ans, 50 ans de votre vie pour les 5 ans qui pourraient peut-être arriver ou non, on ne sait pas. Et je m'excuse, mais ce n'est pas un accident avec la Malaysia Airlines. 239 personnes, ce n'est pas les assurances qui vont les payer, ou bien qui vont les sortir de là où ils sont. Alors c'est cette peur que nous nous sommes créés comme société, qui nous emprisonne. Et c'est la peur. La peur et l'avidité, la cupidité de tous ceux à qui ça profite. Vos assurances, vous ne les toucherez peut-être jamais, mais ça fait beaucoup d'argent pour la Lloyd Insurance et puis toutes ces compagnies. Thaï n'a pas d'assurance médicale. Les moines n'ont aucune assurance emploi. Ils n'ont même pas de salaire. Ils sont heureux. Pas dû en parler, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Une nouvelle société. On revient aux communes hippies des années 60. C'est ça la parole du Bouddha. Et accepter ce qui est. Avec ses qualités et ses défauts. Embrasser. Et ça s'appelle l'équanimité. Pour Thaï, ce n'est même pas une question. Il a dit comme une affirmation. Le prochain Bouddha ne sera pas un individu, mais c'est une communauté. Communauté planétaire dont nous sommes chacun une cellule. Et si nous pouvons prendre soin de nous comme cette cellule afin d'être une cellule en bonne santé, le prochain Bouddha à naître sera un beau Bouddha en bonne santé. Mais si nous ne nous occupons pas de nous, le Bouddha devra porter une cellule malsaine, peu saine, malade. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a donné cette note. Merci pour me la rappeler. Une pratique très importante que j'ai souvent rappelée à chacune de nos retraites, c'est le réveil en pleine conscience. Et ça dit exactement ce que vous venez de nous dire. Je m'éveille en souriant, je me réveille en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles. Alors donc, c'est un rappel pour la pratique du réveil dans la joie. C'est une pratique qui ressemble beaucoup à la pratique que je vous ai décrite hier, celle de la récitation. Si vous trouvez qu'il y a une image, si vous trouvez qu'il y a un son, si vous trouvez qu'il y a un texte, si vous trouvez qu'il y a un enseignement qui vous touche et qui touche votre paix et votre joie, revenez-y. Ça peut être une chanson, comme « Comment ça va ?» Ça peut être avec podcast. Ce qui est important, c'est de nourrir cette joie qu'il y a à l'intérieur de nous. Et chacun, dépendamment de la place où nous sommes, dépendamment de la culture dans laquelle nous sommes, peut y trouver quelque chose qui est très personnel. Alors, si c'est ça votre façon de vous réveiller, c'est parfait. Il y en a que je connais qui s'amusent avec les bulles dans leur bain. Il y a une chanson pour ça aussi, n'est-ce pas? Et de la même façon, lorsque nous venons ici et que nous pratiquons avec ce que vous appelez des fois des rituels ou ce que vous pouvez qualifier de singerie, c'est quoi le terme qu'on a utilisé? Ce n'est pas important. L'important, c'est ce que ça fait pour nous, ce que ça représente pour nous. Si nous apprenons, par exemple, le sutra du lotus, et que chaque fois que nous entendons le mot du sutra du lotus, ce nom, et que la vision du Bodhisattva Avalokita nous apparaît, parce que dans ma jeunesse, j'ai entendu ma mère et ma grand-mère réciter cela souvent parce que j'ai vu des illustrations du Bodhisattva Avalokita. En fait, c'est de l'art Bodhisattva Avalokiteshvara au Vietnam, Quan Yin. Je peux entendre le nom du sutra et cette image m'apparaît à l'intérieur. Et ça me remplit de calme, ça me remplit de non-peur, ça me remplit de joie et de sérénité, j'invoque ce nom-là. Mais si pour vous ça ne veut rien dire, c'est inutile de le faire. Alors pour pouvoir pratiquer de cette façon, il faudrait commencer par se créer, par se fabriquer, par percevoir cette image. ou bien ce sentiment afin de pouvoir y revenir et afin de pouvoir le faire grandir. Alors, lorsque vous quitterez ce centre, vous pourrez, par exemple, comme Lily le suggère, m'amener avec vous. Vous pouvez m'amener avec moi de beaucoup de façons. L'une des façons, c'est par exemple avec le certificat de la prise des 5 entraînements à la pleine conscience. Et si chaque fois que vous l'ouvrez puis que vous voyez mon nom, vous pouvez vous souvenir des 5 entraînements, vous pouvez vous souvenir des 3 joyaux, vous pouvez vous souvenir de la belle cérémonie que nous avons eue ce matin. Et si juste cela peut vous apporter un sourire, c'est déjà merveilleux. Et Chenhui pourra être cette clé ou bien ce mot qui peut révéler, bien réactiver ou bien toucher ces souvenirs de quelques jours ou d'une fin de semaine de paix et de joie et de bonheur que vous avez vécu. Et c'est cela la pratique de la diligence. C'est de revenir constamment à des instants, à des moments, à des états de joie et de paix pour les nourrir et pour les activer. De la même façon que je me suis assis et que je me suis donné comme travail de pratique à regarder des soleils levant, de la même façon identifier dans votre vie ces choses-là que vous voulez nourrir en vous. Alors ça peut être Lily, ça peut être Monique, ça peut être Chenhui. Et ramenez-nous avec vous pour cela. Parce que vous n'avez pas rencontré Bouddha, donc vous ne savez pas qui il est. Donc c'est très difficile pour nous d'avoir cette image. Alors c'est beaucoup plus facile d'identifier ou bien d'utiliser quelque chose qui est plus accessible. Et on revient à la première énergie, la foi. Il nous reste 15 minutes. Ah, ok, on n'a plus de temps. Ok, Lily a dit qu'on n'a plus de temps. Donc, merci. C'était une autre belle retraite pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Et c'est un merveilleux début de tournée. C'est une belle journée, le printemps qui arrive. Ma prochaine ville, c'est Dallas. Alors, Dallas va pouvoir bénéficier des effets de cette belle retraite. Et après Dallas, je serai à Austin, San Antonio. Et après le Texas, je serai au Nebraska, Omaha. Alors, si vous êtes assuré avec la mutuelle Omaha, je pourrais rencontrer Warren Buffett et lui dire que vous aurez des bons clients ici à la MPC avec vous. Et je vais continuer ma tournée sur 8 États américain et je serai de retour à la fin de mai. Aujourd'hui, pendant le petit déjeuner, j'ai rencontré Lily et Monique et Marie-Hélène avec un grand mandat à remplir pour moi, pour mon retour. Nous nous sommes créés un groupe soigné en pleine conscience qui se rencontre les vendredis matins. Un groupe composé de professionnels des soins de la santé. Et nous espérons, avec l'aide et le support de ce groupe et la pratique de ce groupe, pouvoir travailler avec l'Université de Montréal. L'un des membres de ce groupe nous vient de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et nous avons aussi Dr Lamar qui fait partie de ce groupe de notre institut avec lequel nous voulons travailler pour pouvoir établir, proposer un cursus, c'est comme ça que ça s'appelle, qui soit accrédité par l'Université de Montréal et reconnu par les associations professionnelles. Alors nous visons les travailleurs sociaux, nous visons les infirmières, nous visons les médecins et les psychiatres. Alors si vous, dans votre milieu, vous pouvez nous aider à monter ce dossier et à le pousser, ce serait bien apprécié. Lily et Monique ont monté un groupe de travail avec quelques professionnels de la santé pour pouvoir monter le dossier. Et ils travaillent depuis le mois d'octobre l'an dernier. Alors, l'objectif que j'ai demandé à Lily et à Monique d'essayer de remplir, c'est d'avoir quelque chose avant mon départ, avant mon redépart, avant mon prochain départ en octobre, de l'amener à, de l'avancer. Nous avons aussi un programme que nous voulons développer ou bien finir de développer, c'est la formation de formateurs. Alors, l'IPCAM a été fondée il y a 2 ans. Nous offrons beaucoup d'ateliers, mais nous avons besoin d'aide pour pouvoir en offrir d'autres, dans d'autres milieux, dans d'autres domaines. Et avec la pratique de pleine conscience, avec la pratique de base de pleine conscience, nous voulons offrir des ateliers comme ceux que j'offre déjà. Manger en pleine conscience, dormir dans la pleine conscience, cuisiner dans la pleine conscience, etc. Alors, si vous êtes intéressé à éventuellement devenir un de nos formateurs, communiquez avec Lily et Monique pour être au courant du programme que nous allons offrir pour former nos formateurs, Train the Trainers. Et sur cette note publicitaire, je vais remercier encore pour votre présence et votre bonne pratique. Merci beaucoup.